Nous continuons notre série sur l'épître aux Philippiens et on va regarder ce matin au chapitre 2, la joie dans le service. Et je veux simplement prier pour que le Seigneur puisse nous ouvrir notre cœur ce matin. Saint-Esprit, merci d'ouvrir nos cœurs à ta parole, merci de nous disposer pour recevoir ce que tu as à dire, pour que nous puissions comprendre ta parole. On refuse toute distraction, on saisit vraiment ce temps comme un temps où tu parles, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous développons donc ce thème de la joie au travers de cette lettre, une joie qui est bien sûr ancrée sur Christ, on l'a souligné déjà dans ses premiers messages, Paul a déclaré « Christ est ma vie ». La vie de Paul, elle poursuivait un seul but, c'était connaître Christ ou faire connaître Christ. Et les circonstances de la vie, justement, eh ben, elles n'avaient pas lieu d'être. Tant que l'évangile était annoncé, tant que des hommes et des femmes étaient encouragés dans leur foi, touchés par l'amour de Christ, les circonstances n'avaient comme pas d'emprise sur Paul. Lui-même vivait vraiment cette réalité de dire « je ne tremblerai pas, je ne tremblerai pas ». Et il était même réjoui dans la joie tant que l'évangile était annoncé. Et c'est notre cœur aussi ici à Yverdon, à l'Escale, c'est vraiment notre désir. Que vous puissiez être touché par l'amour du Christ, que vous puissiez être transformé par son œuvre, encouragé dans votre foi. De la même manière, moi je ne peux pas dire, je ne suis pas là parce que c'est mon job, mais je suis là parce que Christ est ma vie. Puis si je suis là devant vous ce matin, c'est parce que j'ai envie que vous soyez encouragé, que vous puissiez rencontrer Jésus, que vous soyez enseigné. C'est vraiment notre cœur. Alors dans ce chapitre 1, Paul il a de la joie, je vous fais un petit retour, hein, il a de la joie en voyant la part que les Philippiens prennent pour l'évangile, et on a regardé ensemble dans le premier message qu'est-ce que ça signifie prendre part. On a vu que dans le grec c'est koinonia, et puis que finalement ça faisait appel à plusieurs dimensions qui sont liées à la joie de Paul. Il a de la joie parce qu'il voit les Philippiens qui participent, qui communient, entre autres dans la souffrance aussi, dans le service, dans le combat spirituel, dans l'aide apportée aux autres. Donc tout ça faisait partie de ce koinonia et ça rendait Paul joyeux. Et puis il termine le chapitre 1 avec le thème qu'on a soulevé un petit peu la semaine passée, donc les versets 29 et 30. En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener. Et que, vous l'apprenez maintenant, je mène encore. Alors, prendre part à l'évangile, c'est aussi prendre part à ce combat, à la souffrance. Mais Paul dit, c'est une grâce. C'est une grâce, c'est une joie. Parce qu'il n'y a rien qui peut égaler le privilège de connaître Jésus et de le servir. C'est une grâce. Alors, on n'y est peut-être pas encore. Mais on y tend, d'accord ? Peut-être que c'est difficile pour nous dire, ah, c'est une grâce de souffrir pour toi. On y tend. Et puis, à la suite du texte, le chapitre 2 repart avec une nouvelle mention de la joie sur laquelle je vais m'arrêter maintenant. Philippiens chapitre 2, les versets 2 à 4. Il est dit, donc Paul dit, « Rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alors peut-être là vous dites, je ne vois pas encore l'aspect du service dans tout ça, mais on va le développer, d'accord ? Rendez ma joie parfaite. Moi je ne sais pas, qu'est-ce qui vous rendrait parfaitement joyeux ? Est-ce que vous le savez ? Alors les très spirituels, hein, ils vont dire Jésus face à face... Ça, je suis sûr, ça vous rendrait tellement joyeux. C'est vrai. Mais je ne pense pas dans l'escale. Mais disons que si on faisait un micro-trottoir, hein, non, pas ici, ben, je pense qu'on entendrait souvent plus d'argent, une maison, peut-être un conjoint. Ça, c'est la théorie. Après, la pratique, les gens sont des fois moins contents. Voilà. Des vacances sur une île paradisiaque. Enfin, on entendrait ce genre de choses, très certainement. Hein. Mais si je devais répondre à cette question, comme ça, là, tout de suite, Je ne suis pas sûr que je saurais quoi dire. Bien sûr, Christ, c'est ma joie, bien sûr. Mais est-ce que je pourrais l'expliquer? Est-ce que je pourrais en dire plus? Pas certain. Mais Paul, lui, il le sait. Et bien sûr, c'est Christ, c'est l'Évangile, c'est son souci de l'Église. Moi, je ne sais pas si on se rend compte, mais rendez ma joie parfaite. Et puis qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire 5 aspects qu'on va regarder maintenant, qui vont compléter sa joie, mais qui sont en lien avec son souci pour l'Église, avec Christ. Ça l'habite tellement. Alors, il dit avoir un même sentiment, une même pensée. Est-ce que Paul était le premier adepte de la pensée unique communiste? Non. Mais le terme veut dire ça, hein, c'est une même penser une chose, penser la même chose. Donc il nous encourage à avoir toutes nos pensées centrées sur Christ, avoir le même objectif. Il nous exhorte même au verset 5 du chapitre 2 à avoir les sentiments, avoir la pensée de Christ. Et puis peut-être pour nous aider, hein, on connaît ces verset 8 de Philippiens 4 qui dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » C'est ça qu'il s'agit. Hein. Il exhorte, il dit mais que vous ayez tous les mêmes pensées. Si les Philippiens pouvaient avoir ce même objectif, ces pensées centrées sur la mission, sur le but, alors Paul serait content. Et puis, il dit ensuite avoir un même amour. Bien sûr, amour ici, c'est agapé, c'est un amour qui est, j'aime bien le dire comme ça, qui est dicté par notre volonté et non pas par nos sentiments, par nos préférences ou attirances. Hein. C'est un choix conscient et intentionnel. Avoir ce même amour-là, avoir un amour qui manifeste de l'affection réciproque, une affection qui prend soin, qui pourvoit aux besoins. L'amour fait appel au sacrifice, au don. Et dans 1 Jean 3, 16 à 18, nous lisons « Voici comment nous avons connu l'amour, Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et en vérité. » Amen. Donc avoir un même amour, c'est peut-être avoir une même définition de l'amour. C'est avoir cette définition d'un amour qui se donne. Encore un aspect qui va réjouir le cœur de Paul. Troisième aspect, avoir une même âme. Alors ici, l'idée, c'est d'être en pleine harmonie, avoir un intérêt profond, commun pour Christ, pour la parole. Et je l'ai mis ainsi, c'est une harmonie qui exclut toute forme d'égoïsme, de haine ou de jalousie. Si on est une même âme, alors il n'y a pas d'égoïsme, il n'y a pas de la haine, il n'y a pas de la jalousie. Encore un aspect qui contenterait Paul. Quatrième chose, avoir de l'humilité. Alors, l'humilité, on le sait, c'est le contraire à l'orgueil. C'est une vertu hyper importante qui a probablement fait son apparition dans le Nouveau Testament. Il n'y avait pas d'écrit avant le deuxième siècle avec humilité. Et l'adjectif humble, il était même utilisé très négativement à cette époque-là. On se moquait en fait des esclaves en disant qu'ils étaient humbles. Et le Nouveau Testament a comme renversé ça et a fait de l'humilité une valeur positive et importante, si ce n'est pas même essentielle. Hein. Donc l'humilité, c'est considérer l'autre comme étant au-dessus, c'est adopter cette position de serviteur, sans pour autant nier notre propre valeur ou nos compétences. Encore quelque chose qui ferait la joie de Paul. Et puis ne pas servir ses propres intérêts, bien sûr, c'est lié à l'humilité, mais c'est une leçon tellement importante, et on va en reparler tout à l'heure, une leçon que j'enseigne aussi fois dans le leadership, hein. Avoir cette position de serviteur, d'être un leader-serviteur, c'est la plus grande leçon que Jésus a lui-même enseignée. Lorsqu'on est au service du Christ, on ne se sert pas soi-même, on sert les autres. Alors, vivre ces 5 aspects-là, ben, ce serait vraiment comme être une équipe en plein accord. Et alors, Paul, il devrait être hyper content de ça. imaginez, hein, une équipe qui a une même pensée, une même vision, un même amour, qui a vraiment un amour qui n'est pas basé sur un feeling, mais qui a décidé d'aimer sans faire de différence, de distinction, qui est tellement en pleine harmonie qu'il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de critique. Il y a de l'humilité, au contraire. On se valorise les uns les autres. On est au service, on ne se prend pas la tête. Waouh, c'est le rêve. On s'intéresse aux autres. On ne cherche pas ses propres intérêts. Yes, l'escale. Yes. Mais quelle unité. Ça créerait vraiment l'unité. Mais Paul, il ne désire pas que nous vivions l'unité juste parce que c'est bien. Ce n'est pas juste ça qui fait sa joie. Ça va plus loin que ça. Il dit pas ça, rendez ma joie parfaite, faites ça, puis je serai hyper content, puis voilà, parce que c'est ça que j'ai envie, puis c'est une bonne idée d'être unis. Non, lui, il voit toujours plus loin. L'unité, elle est nécessaire pour prendre part à l'évangile et faire une différence. Et c'est ça le but de Paul, c'est d'amener cette église à vivre l'unité et à servir, et à entrer dans le service. Donc on commence à joindre la joie dans le service, d'accord ? Le lien, je le fais là. Et je vais le mettre comme ça. L'efficacité de notre service commun pour Christ dépend de notre unité spirituelle. Paul le sait, elle serait alors pleinement réjouie si les Philippiens, comme nous aujourd'hui, pouvions mettre ces 5 aspects en pratique. Parce que ça apporterait un fruit immense. Alors en fait, la joie de Paul, elle n'est pas juste basée sur le fait d'une église unie. Elle dépend de plusieurs choses. Et je dirais même qu'elle est triple. Alors on va regarder ça ensemble. Vous êtes encore là ? La joie de Paul, elle serait triple parce qu'il aurait atteint son objectif si les Philippiens vivaient cela. Il aurait contribué à la croissance d'une église en vue du service. Puis il aurait rempli son mandat selon le modèle de Jésus. Voilà ce qui comblerait la joie de Paul dans son service à lui pour Christ. Alors maintenant, j'aimerais vous poser une grande question, il y en aura plusieurs ce matin. Est-ce que vous vous considérez comme étant au service de Jésus ? Prenez-vous part à l'évangile ? Parce que si je parle de joie dans le service et puis que ce n'est pas pour vous, vous n'êtes pas concerné, j'ai un problème ce matin, je vous ai déjà tous perdus. Donc c'est important de vérifier ça. Est-ce que vous êtes au service ? Est-ce que vous vous considérez comme des serviteurs de Dieu ? Je me souviens d'un pasteur qui faisait un voyage, un prédicateur dans un avion, puis souvent là, il se retrouve à côté de quelqu'un qui lui dit « Vous faites quoi dans la vie ?» Puis il dit « Si je dis prédicateur, ça ne veut rien dire, tout ça. » Puis alors il a commencé à dire « Moi je travaille pour la plus grande multinationale, il y a 2,4 milliards d'employés à travers le monde. » Personne n'était comme ça. Pour finalement arriver, qu'il était au service de Dieu. Mais voilà, vous êtes au service, probablement, je l'espère. Alors, on va vite poser quelques questions. Rapidement, ce n'est pas exhaustif. Hein. Avez-vous accepté Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie ? Oui. Bon, c'est un bon point. Êtes-vous préoccupé par les besoins des autres ? Oui. Ah. Priez-vous pour des gens dans votre temps de prière personnel ? Oui. Ah, ben, c'est magnifique. Avez-vous ce désir d'aimer comme Jésus ? Oui. Ah oui. Soutenez-vous financièrement l'église locale, des ministères et des œuvres missionnaires ? Ça rigole. Bon, apportez-vous votre adoration, louange à Dieu ? Participez-vous à un service bénévole dans l'église locale ou ministère chrétien hors église ? Bon, il y a eu pas mal de oui quand même. Si vous pouvez cocher une de ces cases, on pourrait en mettre plein d'autres, vous êtes à son service. Vous êtes au service. Même si c'est vous priez pour des gens dans vos temps de prière personnelle, vous êtes au service de Dieu. Des fois, on a cette notion du service qui est tellement spéciale. C'est moi qui suis devant. Alors là, lui, il sert Dieu. Puis alors moi, je fais rien. C'est tellement faux. C'est tellement faux. Donc, vous êtes au service de Dieu. Et c'est bon de le considérer vraiment. Et d'ailleurs, je ne crois pas qu'on peut recevoir Christ sans être à son service. C'est pour ça que j'ai mis « Avez-vous accepté Christ comme Seigneur et Sauveur ?» Parce que s'il devient notre vie, si on accepte de le suivre. On accepte de le suivre, donc on va le servir. On reçoit pour donner. On est consolé pour consoler. On est réconcilié pour amener d'autres à la réconciliation. On reçoit sa paix pour être aussi, pour amener la paix dans nos contextes de vie. Donc il y a toujours recevoir et redonner, servir Dieu. Alors maintenant, je peux aller plus loin. Servez-vous avec joie. Il fait penser à ton petit, Lucie. Hein si peu, hein je ne savais pas que tu mettais des photos, ça rapporte ça. Elle a mis son fils. Non, servez-vous avec joie. Bon. Alors c'est bien qu'on en parle. Il n'y a pas beaucoup de réactions. Donc ce n'est pas tout de servir. C'est bien de servir, ok. Mais est-ce qu'il y a la joie? Quelqu'un m'a dit un jour, si la joie n'est plus là, c'est qu'il faut arrêter. Et puis se poser des bonnes questions. Autrement dit, la joie devrait être au rendez-vous lorsqu'on sert Dieu. Mais on le sait, les difficultés de la vie, la fatigue, les pressions, nos propres manquements, le découragement, le sentiment de ne pas être à la hauteur, beaucoup luttent avec ça, le sentiment de ne pas être à la hauteur. Tout cela peut enlever notre joie. Mais qu'est-ce qui rend Paul joyeux? Est-ce que ce qui rend Paul joyeux pourrait nous rendre joyeux? Je pense, hein. En tout cas, c'est ce qu'il désire pour nous. Il dit au verset 18, chapitre 2, « Vous aussi soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. » Alors, on va essayer de le faire. On va regarder donc ces trois points qui rendent Paul heureux. La joie d'atteindre son objectif. Alors, avez-vous déjà connu cette joie? Lorsque vous avez atteint un objectif, vous avez terminé un travail, il y a un sentiment qui est là de satisfaction. Est-ce que vous avez connu ça? C'est bienfaisant, hein? C'est cool. Si vous n'avez jamais connu ça, jamais senti ça, c'est peut-être que vous n'avez jamais fixé d'objectif. D'accord? Donc, c'est vrai, parce que Paul a de la joie dans son service parce qu'il a atteint l'objectif. Il a vu un fruit. Il y a quelque chose, là. Et il va dire, aussi dans ce texte, en 14 à 17, « Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. » Ça, c'est dit. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. C'est la devise des flambeaux de l'Évangile, ceux qui ne le savaient pas. Je pourrais alors être fier le jour de Christ de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. L'un des objectifs de Paul, c'est d'amener cette église à vivre l'unité spirituelle, avoir le caractère de Christ, et puis l'impact dans la vie réelle, dans la société, va être évident. Il dit, vous brillerez comme des flambeaux. Et moi, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je serai fier. Le jour de Christ, je serai fier. Je n'aurai pas couru ni travaillé en vain. Ce sera le résultat de sa course, de son travail, de son service. Et Paul parle de service-sacrifice. Hein. Si mon sang devait couler, ça fait vraiment référence à un sacrifice. Donc, même s'il devait passer par là, et à quelque part, il était en train de passer par là, parce qu'il était emprisonné, il allait probablement mourir très prochainement. Donc, si même je devais aller jusque-là, mais si je vous vois prendre part à l'Évangile, vivre l'unité, porter du fruit, alors ça sera ma joie. Je serai heureux. Il y aurait une satisfaction d'avoir achevé son travail, d'avoir vu quelque chose, d'avoir atteint un objectif. Alors, je vous pose cette question. Quand vous êtes-vous fixé pour la dernière fois un objectif spirituel? Deuxième, avez-vous un objectif dans votre service pour Jésus? Donc, la joie dans le service, elle ne vient pas uniquement de la collaboration avec le Saint-Esprit. Ça, c'est, bien sûr, c'est la joie première. Mais cette joie vient aussi lorsqu'on voit du fruit à ce travail. Donc si on n'a pas d'objectif, ben, y a peut-être pas grand-chose qui se passe. Puis ce n'est pas très motivant. Et dans le monde chrétien, on a de la peine à mettre des objectifs. Parce qu'on a peur de ne pas les atteindre. On a trop peur. C'est terrible quand même. Hein, mais il n'y a rien de plus décourageant, démotivant d'avancer sans but. Donc c'est important d'en mettre. Il faut des objectifs réalistes, bien sûr. Donc peut-être que pourriez-vous mettre un objectif de lecture biblique. Maintenant, il y a beaucoup d'applications qui proposent des plans de lecture. Vous savez, moi, j'étais presque culpabilisé parce que je connais beaucoup de pasteurs qui lisent la Bible de A à Z chaque année. Tous les ans, ils relisent toute la Bible. Puis on m'avait dit, même dans ma formation, ça, c'est le meilleur truc, c'est important, tu verras. Bon, ben, j'ai essayé, j'ai pas réussi, quoi. Donc, c'est vrai que c'est décourageant. C'est vrai, Oh, il faut mettre un objectif réaliste. Donc ce n'était pas réaliste pour moi, parce que finalement, je faisais tellement que de lire que il n'y a plus rien qui rentrait dans mon cœur. J'étais juste en train de lire. Et puis j'essayais de ne pas louper les jours, et puis c'était une catastrophe. Donc, oui, mais pourquoi pas, quand même un objectif de lecture, où vous dites, je vais juste relire les évangiles, je vais juste relire l'évangile de Jean. Mais donnez-vous un objectif peut-être de lecture, un objectif de progression dans votre service à l'Église, peut-être... Dans ce que vous faites à l'Église, vous aimez ça, vous dites, mais peut-être que je pourrais m'améliorer, je pourrais peut-être suivre une petite formation, peut-être que je pourrais m'engager dans quelque chose que je ne connais pas, peut-être que je pourrais viser quelque chose, comme un peu un défi, puis dire, j'aimerais un jour pouvoir prêcher la parole. Bon, il y a peut-être un charisme chez vous, on ne l'a pas encore vu, mais peut-être que c'est ça que vous avez envie de faire. Ben, on peut le développer, on peut aller plus loin. Peut-être un objectif très simple, saluer une nouvelle personne chaque dimanche, une personne que vous ne connaissez pas. Ça peut être un super objectif que je vous encourage à vivre vraiment, vraiment, vraiment. Ou bien invitez vos voisins personnellement. Vous pouvez vous dire, ah ben, cette année 2020, j'inviterai tous mes voisins de mon immeuble un à un pour prendre l'apéro. Voilà, pourquoi pas hein, ben voilà, il y en a qui sont contents, ils aiment bien prendre l'apéro. Alors, mais voilà, avoir un objectif comme ça. Puis là, vous servez. Quand on atteint ces objectifs-là, il y a une joie qui est renouvelée dans notre service. C'est motivant. Deuxième chose, il devrait y avoir un 2, c'est contribuer à la croissance et à la multiplication. Il y a aussi de la joie dans le cœur de Paul, hein, parce qu'il contribue à la croissance et à la multiplication. Quel que soit notre service, nous sommes appelés à faire pousser et à multiplier. Vous connaissez tous ce verset de Timothée 2,2, c'est facile à retenir. « Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. » D'accord ? Donc tu as reçu, tu redonnes à d'autres qui vont redonner à d'autres. Ça, c'est la multiplication. Il y a de la joie dans la transmission. Lorsque tu amènes quelqu'un plus loin, lorsque tu le fais grandir, lorsque tu déverses en lui, tu donnes des outils, et c'est tellement encourageant. Et lorsque par grâce, tu en vois le fruit, là, c'est vraiment une immense joie. Donc Paul a enseigné l'unité aux Philippiens, il leur a donné un modèle de service, il s'est déversé en eux, il a vraiment donné tout son cœur, il a un cœur rempli d'affection, vous vous souvenez, dans le chapitre 1, verset 7. Et puis sa plus grande joie serait de les voir grandir dans l'unité, servir Christ comme lui le fait. C'est tellement fort de voir comme si... ces enfants qui grandissent. Et justement, c'est mon désir pour mes enfants biologiques déjà. Je me réjouis un jour de les voir quitter la maison. Amen. Non. Mais je me réjouis de les voir prendre leur envol avec aisance. Vous voyez, quand ils prennent leur envol et puis que ça se passe bien, ils prennent pied dans la vie. Moi, mon désir, c'est que j'ai pu transmettre quelque chose, puis que mes garçons deviennent des bons maris, puis des bons papas. Waouh, je serais tellement heureux de ça. Parce que j'aurais transmis, j'aurais investi, puis j'aurais vu un fruit. Mais c'est la même chose pour l'escale. Moi, je serais dans la joie si, au moment où je vous quitte, eh ben, je vois une église qui continue à grandir, qui est en progression. Ce sera une joie énorme de voir ça. Il y a de la joie lorsqu'on contribue à la croissance et à la multiplication. Alors encore une question, dans quel domaine contribuez-vous à la croissance et à la multiplication? Quelle que soit votre manière de prendre part à l'œuvre du Seigneur, vous pouvez travailler à faire grandir, en apportant des améliorations, en multipliant, en levant d'autres personnes. Et vous connaissez certainement ce petit modèle de délégation, si vous ne le connaissez pas, ça vous sera très utile. Et c'est même valable pour les parents avec les enfants, ça marche très bien. Petit modèle de délégation, leadership, voilà, je fais, tu regardes. Là, c'est modelé. Je vais vite. Hein. Je fais, tu m'aides. Deuxième étape. Tu fais, je t'aide. Tu fais, je regarde. Et cinquième étape, tu fais, je supervise et fais autre chose. Ça, c'est un modèle de délégation, mais en fait, c'est un modèle de multiplication. n'est pas l'idée de donner une tâche et puis de se débarrasser de la personne et bon, on lui donne vite un truc, comme ça je peux faire autre chose. Non, l'idée, c'est de multiplier. Et quoi que vous fassiez, vous pouvez rechercher quelqu'un à qui vous allez pouvoir le transmettre. Que ce soit votre service à l'église, hein, que ce soit la déco, l'accueil, l'offrande, la sono, vous pouvez déjà rechercher quelqu'un et transmettre. Voilà, l'accueil, vous prenez une personne, puis vous lui montrez. Voilà, je fais, tu regardes. Je fais, tu m'aides. Et puis à un moment donné, ben, c'est elle qui va faire, puis peut-être que vous auriez un appel pour autre chose, puis ça va multiplier. C'est vrai pour tous les services, mais c'est vrai aussi dans votre vie à la maison, le reste de la semaine, la vie de prière. Ben, vous pouvez transmettre ça, même dans des groupes de prière. Je sais qu'il y a un tas de groupes de prière qui... Mais votre vie de prière, vous pouvez encourager quelqu'un par votre vie de prière. Si vous êtes quelqu'un qui avait cette... Voilà, qui donnait des paroles d'encouragement, ben vous pouvez encourager d'autres à être comme ça, à dire « Mais oui, c'est bon, ose donner une parole d'encouragement. » je sais pas, si vous allez faire de temps en temps des visites, vous pouvez prendre quelqu'un et dire ben, « Regarde, vois les besoins, regarde les besoins des gens. Tu peux prendre quelqu'un pour faire une visite, etc. etc. » Transmettez, encouragez, levez d'autres personnes. Votre service, il est important. Vous trouverez de la joie dans ce travail de croissance et de multiplication. Et à l'inverse, vous savez, c'est très dur. J'ai des amis missionnaires, quand ils étaient des années maintenant, ils sont âgés, ils ont été missionnaires au Burkina pendant tant d'années. Puis quand je les visitais, des gens très inspirants, puis ils me disaient, mais nous, notre plus grosse peine, c'est de savoir que tout ce qu'on a bâti là-bas n'a pas été maintenu. Pour eux, c'était, ils avaient investi leur vie. Et puis, il n'y a pas eu une bonne transmission, il n'y a pas eu de suite. Vous voyez, il y a tout qui est retombé. Bah, ils étaient tristes de ça. C'est un peu comme si, ouais, ils avaient investi pour rien, quoi. On sait que ce n'est pas pour rien, puis que Dieu a vu, puis que sur le moment, il y a un tas de fruits qui étaient là. Mais le fait qu'il n'y ait pas de suite. Donc, vous comprenez qu'il y a de la joie pour Paul de voir une église qui grandit, qui multiplie, qui a un fruit, quand on s'investit complètement. Troisièmement, remplir son mandat selon le modèle de Jésus. Donc Paul encourageait les Philippiens et toutes les églises avec qui il était en contact de l'imiter. Hein? Paul, il n'avait pas peur de dire « imitez-moi, faites comme moi, regardez, prenez part avec moi ». Moi, je n'oserais pas vous dire « imitez-moi hein? ». Il faut être vachement sûr de soi hein, quand même. Mais souvenez-vous de cette déclaration « Christ est ma vie ». Et je crois que lorsque c'est totalement le cas, lorsqu'il y a cette pleine consécration, une entière mise à part, comme c'était le cas pour Paul, alors il n'a même pas besoin de le dire, tu as envie de l'imiter. Tu as envie de l'imiter. On a envie d'imiter des gars comme ça. Paul avait de la joie à être un serviteur selon le modèle de Jésus. Un homme à imiter, pas parce qu'il était parfait, c'est ça qu'il faut bien comprendre, pas parce qu'il était parfait qu'il pouvait dire ça, mais parce qu'il servait les autres. Et non pas ses propres intérêts. C'était là, imitez-moi. Moi, je ne regarde pas à moi-même, je regarde aux besoins, je regarde aux autres, je regarde à la mission. Alors, dans ce sens-là, peut-être, j'oserais plus. Mais si c'est imitez-moi parce que je suis parfait, alors là, non. Mais imitez-moi dans un esprit de, ok, ce n'est pas mes propres intérêts que je sers. C'est la mission, c'est Jésus, Christ. Et dans ce chapitre 2, Paul prend l'exemple de Jésus, évidemment, comme modèle d'humilité et de service. Il dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Et puis, au verset 20-21, Paul parle de sa propre situation. Il dit, je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment votre situation à cœur. Hein? Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Et cependant, il va faire mention de Timothée puis d'Épaphrodite, qui sont des exceptions là au milieu, des hommes qui servent selon le modèle que Paul leur a transmis, à savoir celui de Jésus lui-même. En fait, j'arrive bientôt à la fin, il y a une joie dans le service tout court, car le service est le modèle que Jésus nous a montré pour aimer et pour atteindre les plus rejetés, les plus miséreux, les plus sales, les plus éloignés de Dieu. Connaissez ces paroles, Marc 10, 43-45, Jésus a dit, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Mes amis, il y a de la joie lorsque l'on vit ce que Jésus nous a enseigné. Nous tendons à être comme Jésus et cela devrait nous remplir de joie lorsque nous accomplissons sa volonté, lorsque nous servons sans chercher notre propre intérêt, mais avec ce seul désir de répondre pleinement à son appel. On doit être dans la joie pour cela. C'était la joie de Paul, d'être cet homme qui investit, qui voit du fruit, et puis qui sert comme Jésus l'a appelé à servir, qui sert avec ce cœur désintéressé de lui-même. Tout ça faisait sa joie. Alors je l'ai résumé en conclusion, la joie de Paul est complète lorsque ce qu'il enseigne porte du fruit, lorsque l'Église vit l'unité et prend part à l'Évangile, lorsqu'il peut ainsi contribuer à la croissance de l'Église et l'avancement du royaume de Dieu, lorsqu'il peut multiplier les ouvriers dans la moisson, lorsqu'il représente Christ en étant un modèle de serviteur, prêt à tout donner pour la cause de l'Évangile. Alors ce matin, ma prière, on va terminer par un temps de prière, mon désir, c'est vraiment que nous puissions s'approprier cela, nous puissions réaliser qu'il y a de la joie dans le service. Cette joie, elle est multiple. Et peut-être que vous n'étiez pas conscient, en fait, que votre service porte tout ça. Votre service a un enjeu qui est grand. Votre service peut vraiment amener la croissance et la multiplication. Votre service, il a besoin d'objectifs aussi. Moi, j'aime bien vous dire, puis je vous le redis encore, vous n'êtes pas là pour... Déjà, il n'y a pas que le service à l'escale, hein, c'est un champ missionnaire qui est large, puis vous n'êtes pas là pour boucher un trou. D'accord ? Vous êtes là pour entrer dans l'appel qui est le vôtre, pour prendre la place que Dieu vous appelle à prendre. Et c'est tout différent. Parce que si on est là pour boucher un trou, pas très intéressant. Mais si vous êtes là à la place que Dieu veut pour vous, alors vous pourrez voir ça. Vous aurez de la joie aussi. Puis vous aurez probablement ce désir de grandir vous-même, de mettre des objectifs, d'aller plus loin avec Dieu. Ça va vous construire aussi dans votre relation avec Dieu. J'aimerais qu'on puisse prier pour une réelle unité dans le service, pour une joie complète dans notre service pour Jésus. Je crois que c'est important quand nous puissions prier ce matin pour l'unité aussi entre nous, pour entrer dans ce service auquel nous sommes appelés en tant qu'Église, une unité spirituelle en vue du service. Puis ensuite, j'aimerais prier vraiment pour que nous puissions servir Christ en trouvant cette joie, non seulement dans sa présence, mais comme je l'ai dit, dans la poursuite d'objectifs, dans cette vision de multiplication et dans l'accomplissement de notre appel, cet appel de serviteur. Amen. Je vous invite à incliner la tête. Merci Père parce que tu as désiré collaborer avec nous, avec chacun de nous. Merci ce matin déjà de nous conscientiser à cette réalité. Nous sommes tes serviteurs. Nous sommes même l'armée du roi. Mais il y a une telle intimité que tu dis aussi que tu nous as appelés amis. Seigneur, je prie que dans ce service que nous faisons pour toi, nous puissions vraiment trouver et recevoir cette joie. Seigneur, je prie que si quelqu'un dans ce lieu avait l'impression de ne pas te servir, qu'il puisse réaliser que par un tas de situations, tu l'utilises, il te sert. Seigneur, je prie que nous puissions avoir cette joie renouvelée, ce désir de multiplication, ce désir de voir d'autres grandir. Cette satisfaction, cette joie d'accomplir l'œuvre à laquelle tu nous appelles et de voir que nous ne travaillons pas en vain. Et Père, je prie pour l'unité dans ce lieu, l'unité entre nous ici, chrétiens, communauté locale. Seigneur, si tu nous as mis ensemble ici, ce n'est pas juste pour qu'on vive un bon moment le dimanche, parce qu'il y a aussi un désir, un appel. Seigneur, je prie que nous puissions grandir dans ces aspects de l'unité pour mieux te servir. Saint-Esprit, c'est ton œuvre. On s'attend à toi. Alléluia. Amen. Amen. Merci pour votre attention. Puis j'invite le groupe de louanges à me